الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة أيها الأخوات، شخصير أحييكم بتحية الإسلام، شوفوا سلود سلود الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais d'abord que nous comprenions bien que ce qui nous réunit dans une soirée comme celle-ci où vous êtes tellement, où depuis trois semaines tellement de frères, tellement de sœurs ont été présents, je ne crois pas que vous vous rendez compte de la force de l'islam et de la force de notre foi en Dieu, si nous savons vraiment répondre à cet appel. Parce que, à vous voir comme ceci, à savoir que, en l'espace de deux semaines et demie, j'ai rencontré tellement de frères et tellement de sœurs, et que ça n'a pas cessé un jour, voir des frères et des sœurs qui veulent tellement plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, je me dis qu'il faut vraiment que nous commencions par là, et que vous compreniez que ce message, c'est un message qui est pur, qui est simple, parce que notre message, il est vraiment très simple. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous tous, il nous a donné, finalement, le sens de tout ce qui doit faire notre fraternité. Et c'est bien le lien et l'amour en lui, d'abord. Parce que tout ce qui se passe dans nos familles, et dont je vais un peu parler ce soir, tout ce qui se passe dans nos sociétés, il est véritablement lié à cet amour-là. Et je ne sais pas pourquoi, au moment de devoir partir et qu'il y ait cette dernière rencontre, depuis tout à l'heure, le frère a parlé de mon grand-père Hassan el-Banna, rahimahullah. Mais en priant le Isha et en sachant tout à l'heure que c'était la dernière fois pour cette fois, Inch'Allah, que je priais le Isha ici, c'est l'image de mon père qui m'a accompagné depuis la mosquée jusqu'à ici. Parce que je devais venir ici en août. Wa qaddara Allah, Dieu a voulu que le 4 août de cette année, celui qui m'a tout donné avec ma mère, le docteur Saïd Ramadan, rahimahullah, Allah l'a rappelé à lui. Vous savez, il a vécu 41 années d'exil loin de son pays. Et dans ce qu'il a... Et dans ce que je ressens maintenant, exactement le message qu'il m'a transmis, qu'il m'a dit de l'islam. À savoir que notre message, c'est l'amour. Et que lui, ce qu'il a appris de Hassan el-Banna, qu'il l'avait éduqué, ce qu'il m'a enseigné, c'est finalement pas beaucoup un islam de la parole. C'est un islam du cœur. C'est un islam de la responsabilité dans le cœur. C'est un islam de... de ce qui doit faire notre fraternité. Et il est décédé isolé à Genève, mais avec des liens de fraternité avec l'ensemble de la communauté. J'aurais voulu lui dire, mais je lui l'ai dit d'ailleurs, tout à l'heure lors de la prière, combien ce que j'avais vécu ici avec vous. Parce que l'essentiel, il l'a transmis, l'essentiel, il est que c'est grâce à ces parents-là, à cette famille-là, que je suis là et je n'ai pas beaucoup de mérite. J'aimerais vous dire que la troisième révélation qui est descendue sur notre prophète bien-aimé, alayhi salam, était de nous rappeler que le message que nous avions, c'était des paroles lourdes. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi des paroles lourdes. Et ces paroles lourdes, ce sont les paroles du Coran, descendues du haut de sept cieux. À Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous aime pour nous guider, et qui attend que nous l'aimions pour pouvoir être guidés. Et que dans l'ensemble de cet amour que nous devons développer, il faut vraiment que vous compreniez que si vous êtes autant, je ne sais combien de centaines ici, faut que vous développiez vraiment ceci fondamentalement, parce qu'il n'y a pas de succès pour nous sans cela. Et que notre union, elle se fera en Dieu, Inch'Allah. In anfaqta ma fil ardi jami'a, la allafta bayna qulubihim. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas réuni leurs cœurs, tu n'aurais pas accompli ce lien entre les cœurs. Walakin Allah allafa bainahum. Mais c'est Dieu qui a réuni les cœurs. Alors il n'y a pas de solution pour nous que de comprendre que faudra bien que ça passe par là. Il faudra bien que ce que vous êtes en train de prouver depuis des semaines, en tant que musulman de l'île Maurice, mais vous en soyez vraiment les témoins tout le temps. Que après cette soirée, comme après toutes ces soirées, vous fassiez illuminer dans cette île, hein, le véritable message de l'islam qui est celui de cette fraternité, qui est celui de cette lumière. Parce que c'est la lumière que vous avez en vous. Mais il faut la faire vivre. Et il faut la faire vivre en vous rapprochant tous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre ce Coran sur une montagne, elle se serait effondrée. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Si nous avions fait descendre ce Coran sur la montagne, elle se serait effondrée de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons tout, et puis parfois nous pensons à rien. Tout est dans les cœurs et nous parlons avec la tête. Tout est en nous et nous regardons à l'extérieur. Toutes les solutions sont parmi nous et nous créons tous les problèmes. Il faut bien que nous revenions à cet essentiel-là, et c'est ce que j'avais envie d'abord de vous donner comme message, frères et sœurs de l'île Maurice, à ceux qui sont ici et qui se sont déplacés et qui ont fait autant de kilomètres. Parce que cette vie est une épreuve, elle est faite de rencontres comme celle-ci, elle est faite de séparation, parce que personne ne sait si demain nous serons là, parce qu'il se peut que demain, quelques-uns d'entre vous ou moi-même, nous ne soyons pas vivants. Et que la vie est cette épreuve-là, mais il faut la vivre avec l'essentiel, la foi purifiée de chacun d'entre vous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la mort et la vie comme une épreuve, pour savoir lequel d'entre nous est le meilleur. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ce message-là, il est le nôtre, ce message-là, il est le vôtre, ce message-là, il est nourri par tous les musulmans, partout de par le monde. Et quand tous ces remerciements que je reçois ici, dans un passage finalement très très court, me font penser que, Inch'Allah, si chacun d'entre vous, frères, que je vois devant moi, que chacune d'entre les sœurs qui est ici, comprend ce message-là, comprend ce message du plus profond de son cœur et essaye de purifier son cœur pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien nous réussirons à faire quelque chose. Mais il ne s'agit pas d'être frère avec moi, il s'agit d'être frère entre vous aussi, parce que le plus important c'est ceux qui restent, ce n'est pas ceux qui partent. Le plus important, c'est ceux qui restent, ce n'est pas ceux qui partent. Et pour comprendre ce message, pour comprendre ce qui va fonder le couple musulman, puisque c'est notre sujet, c'est de comprendre qu'un couple se fait de deux êtres, de deux individus, de deux personnes. D'abord, je parlerai de la famille d'un point de vue général, mais c'est constitué par un homme et c'est constitué par une femme. Et le couple musulman, il doit être constitué par un homme qui croit et une femme qui croit. Et on doit vivre avec son épouse dans la foi en Dieu. Et on doit vivre avec son mari dans la foi en Dieu. Et on doit vivre avec son époux dans la prière avec Dieu. Et on doit vivre avec son épouse dans la prière avec Dieu. Que ça, c'est vraiment le plus important pour nous tous. Il faut créer un couple sur les bases solides. Et les bases solides, c'est la foi. Et les bases solides, c'est la prière. Et la base solide, c'est la compréhension en Dieu. Et c'est l'amour en Dieu. Certains, quand on parle du couple, ont envie que je leur transmette des techniques de la vie en couple. Donne-nous comment faut faire, un mode d'emploi. Mais dans le couple, ce n'est pas une question de mode d'emploi, c'est vraiment, mais vraiment, il faut que vous l'entendiez très fort, c'est une question d'amour. C'est une question d'affection. C'est une question de respect. C'est ça d'abord. Ce n'est pas des techniques. Qui aime en Dieu, trouve la façon d'aimer en Dieu. Parfois c'est difficile, parfois il y aura des crises. Un couple est fait de moments de rencontre. Et de moments de crise, c'est normal. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des anges. Je le vis de la même façon que vous. Le plus important, c'est de toujours mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de tout. Et de savoir que si Allah subhanahu wa ta'ala un jour vous a uni, c'est qu'il l'a voulu ainsi. Et qu'il ne faut pas, aussitôt qu'il y a une crise dans votre couple, supposer qu'il est aussi facile de se séparer de son épouse ou de se séparer de son mari. Si un jour il vous a uni et que vous êtes uni devant lui par le mariage, sachez qu'une fois que vous avez pris cette décision, il vous est certes permis de quitter votre épouse. Il vous est certes permis de quitter votre époux. Mais des choses permises par Dieu, c'est la plus détestée. Et donc il ne s'agit pas à tout bout de champ. Je te divorce. Retourne chez ta maman. Va-t'en. Tu m'énerves, je ne veux pas de toi. Ça commence par des mots et parfois ça va plus loin. Certains d'entre vous frappent leurs épouses, il n'en est pas beaucoup, ce n'est pas une habitude chez vous, alhamdoulillah. Remerciez Dieu de vous avoir fait gain de ce tempérament, mais certains le font, et ce n'est pas l'islam. Certains les traitent d'une façon que je n'oserais même pas rappeler ici, dans leur intégrité corporelle. Ils ont entendu que la femme devait obéir à son mari, et ils traitent leur femme comme si elles étaient leurs servantes, et ils traitent le corps de leur femme comme si c'était un bien. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est définitivement pas l'islam. Parce que l'un des derniers versets qui, et le dernier d'ailleurs des versets qui parlent de la rencontre dans le couple de l'homme et de la femme, vous le connaissez, je l'ai beaucoup rappelé ici, dans Sourate Ar-Rum des Romains. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi ces signes, il a créé pour vous, tiré de vous des épouses pour que vous reposiez auprès d'elles. Vous entendez? Pour que vous reposiez auprès d'elles. Comment voulez-vous reposer auprès d'une épouse que vous maltraitez, que vous insultez, que vous négligez? Et il a établi entre vous la bonté et l'amour, l'affection. Il y a en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du haut de sept cieux, après 23 années de révélation, peut être plus clair? Il a établi, il a créé pour vous des épouses, pour que vous reposiez auprès d'elles. Donc il faut chercher le repos auprès de votre épouse. Mais en même temps, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, que parmi ces signes, il a établi entre nous l'amour et l'affection, le pardon et l'affection. Il n'y a pas de couple sans cela. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui nous prend les musulmans, de finalement parler de notre religion qu'en interdit et en permis, et d'oublier tout ce qu'il y a de sentiment dans notre religion, tout ce qu'il y a d'appel du cœur. Même dans la lecture du Coran, certains maltraitent les enfants. Et iraient même jusqu'à les brusquer dans l'apprentissage du Coran. Je comprends qu'il faille, et il faut lire le Coran de la meilleure des façons, dans le tajwid correct. Oui, 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 il faut. Mais pas en maltraitant ceux qui l'apprennent. Parce que le prophète, alayhi salam, vous savez ce qu'il nous a dit du Coran? Il nous a dit de la même façon de le dire en le chantant. Oui, et il faut apprendre ses règles. Mais il nous a dit autre chose du Coran dans l'apprentissage. « Inna hadha al-Qur'an nazala bi-huzn » Ce Coran est descendu dans la tristesse. « Fa'in qara'tumu fabku » Quand vous le lisez, pleurez. « Wa'in lam tabku fatabaku » Et si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer. Pourquoi ? Parce que dans l'apprentissage du Coran, ce qui doit être transmis, ce n'est pas simplement la règle des lettres. C'est le cœur de leur sens. C'est le cœur, le sentiment qu'il y a dans ce Coran. Qui fait que c'est un Coran qui est très très lourd. Et tout dans notre apprentissage est fait de cette sensibilité-là. Je ne sais pas pourquoi nous en sommes venus arriver à transformer notre religion en un manuel de technique. Nous parlerons 10 ans de comment il faut faire la prière dans les gestes et nous oublierons de parler qu'il faut faire la prière dans la crainte. Nous parlerons 10 ans qu'il faut lire le Coran comme cela et nous oublierons qu'il faut comprendre le Coran dans son cœur. Nous dirons 10 ans les droits et les devoirs de la femme et nous oublierons que la femme est notre femme. Et que notre femme nous lie par l'amour, l'affection, la bonté, la tendresse. Si on commençait par le commencement, de ce que nous enseigne l'islam du haut de sept cieux, de ce que le prophète alayhi salam nous donnait comme exemple. Vous savez, le prophète alayhi salam, j'ai souvent dit ça aux frères, j'aimerais que vous l'entendiez du fond de votre cœur. Le meilleur d'entre nous ici pour sa femme est bien loin de la bonté du prophète Aïssatou Assalam pour les siennes. Parce que le prophète Aïssatou Assalam ne se fâchait, on sentait qu'il se fâchait que quand il y avait une chose qui déplaisait à Dieu. Et nous nous fâchons pour des choses qui nous déplaisent à nous. Raison pour laquelle nous sommes souvent fâchés. Raison pour laquelle il l'était si peu. Le prophète Aïssatou Assalam, pour toute personne, relisez toutes les sirahs du prophète, toutes les vies qui ont été recensées du prophète, de Ibn Hisham, jusqu'à Ibn Ishaq, jusqu'à toutes celles que vous avez. Vous ne trouverez pas, jusqu'au plus moderne, vous ne trouverez pas un fait qui relate que le prophète, alayhi salam, a levé sa main sur l'une de ses épouses. Lisez toutes les vies du prophète et vous verrez que partout il vous est rapporté que le prophète Aïssatou avait d'abord mis dans toute sa vie Allah avant toute chose. Mais dans sa famille, il aidait au ménage, cousait ses vêtements et ses chaussures. Il était présent dans sa maison comme personne d'entre nous ne sait l'être. Et il a réussi à nous montrer le prophète Aïssatou ce merveilleux équilibre. Savez-vous lequel? D'un immense dévouement à sa communauté et d'un immense amour à ses épouses. Et c'est parce qu'il a eu des épouses qui savaient l'aimer qu'il a su, en même temps, pouvoir transmettre à l'ensemble de la communauté l'essentiel. Être aimé de tous, être exigeant avec tous, apporter le message, être respecté de tous. Cet homme dont je vous parle, c'est Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, votre modèle à tous. Alors, vous savez, que l'un d'entre vous vienne me dire, j'ai entendu le mufti de telle région, le savant de telle région, l'exemple de tel pays, la rencontre de telle campagne. Que n'importe qui vienne avec n'importe quel exemple. Votre exemple est le seul à qui vous devez vous référer, c'est le prophète Aïssatou Salam. Et le prophète, en son cœur, aimait ses épouses et les traitait merveilleusement bien. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète Aïssatou Salam savait, comme nous savons, qu'il allait rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il a construit dans son foyer. Il n'a pas négligé son foyer. Il n'a pas négligé l'éducation de ses enfants. Quand les Arabes et les Bédouins de l'époque étaient aussi durs avec leurs femmes, étaient aussi durs avec leurs enfants, le prophète Aïssatou Salam a montré l'exemple de la douceur avec ses femmes et avec ses enfants. Il prenait son enfant pour faire la prière et il le prenait dans ses bras et il faisait les gestes de la prière. Il a développé cette présence extrêmement chaleureuse. Il annonçait au monde le pire des châtiments à qui ne suivrait pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en amenant cela au monde, en présentant au monde le pire des châtiments, il nous annonçait le pire des châtiments pour qui ne suivait pas la voie. Cet homme qui était venu avec le message le plus exigeant pour les hommes a réussi à se faire aimer de tous les hommes. Alors, j'aimerais quand même que l'on mette ceci au centre de notre relation conjugale. Si vous étiez venu entendre vos droits, les chers frères, et que vous pensiez que j'allais venir dire aux sœurs leurs devoirs, si les sœurs pensaient que j'allais dire aux frères leurs droits et que j'allais préciser leurs devoirs, eh bien vous avez raison. Je suis venu vous dire à tous un devoir, le premier et l'essentiel devant Allah subhanahu wa ta'ala, le devoir d'amour, d'affection et de respect entre vous. À tous, ici, ce devoir-là est premier. À partir de là, eh bien, il y a une chose à laquelle nous devons réfléchir dans la construction de nos couples. C'est que si nous partons et si nous construisons notre relation à partir de cet essentiel-là, et que vous savez, vous les hommes et vous les jeunes sœurs et les moins jeunes sœurs, vous les femmes ici présentes, si vous savez que le Coran est adressé, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala est adressé au cœur de chacun, il faut vraiment que vous commenciez pour vivre votre vie de couple par réformer vos cœurs. Il faut que chacun d'entre vous ici, et vous êtes nombreux, quand il va rentrer chez lui tout à l'heure, qu'il se demande « Qu'est-ce que je fais véritablement pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ma vie est orientée autour de cet axe ?» Et puis quand il se pose ces questions pour lui, il va se poser la question « Mais est-ce que dans ma famille, j'ai vraiment mis dans la relation avec ma femme ?» Est-ce que j'ai vraiment mis dans ma relation avec mon mari, est-ce que j'ai vraiment mis l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que mes petits désirs personnels, plutôt que ma petite vie égoïste, plutôt que ma petite vie contre tous, contre ma femme en oubliant mes enfants? Est-ce que c'est véritablement ceci les frères, ceci les sœurs que vous avez mis au centre de votre vie? C'est bien cela qu'il faut vous poser comme question. Pas de grande théorie. L'islam est simple et pur, et ça commence par les cœurs. Bien, à partir de là, quand chacun se pose cette question-là, la première réponse qui va venir, Et c'est bien de là que j'ai envie de commencer la rencontre de ce soir, mais elle a déjà bien commencé. C'est de là que j'ai envie de donner certaines pistes, parce que je ne suis là que pour, avec vous, réfléchir à quelles pistes nous pouvons avoir. Vous savez ce qu'il faut reconnaître. Mais il faut le reconnaître très très sincèrement. Vraiment, pour chacun d'entre vous, aujourd'hui, être musulman, comme l'exige l'islam devant Allah subhanahu wa ta'ala, être musulman de tout son cœur, c'est difficile. Il faut qu'on l'admette. Il faut que vous admettiez dans cette société mauricienne que être musulman et répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est difficile. Parce que c'est simple, mais il n'a jamais été dit qu'un message simple soit facile. C'est difficile de se lever le matin tous les jours à 4h30. Mais dès qu'on a passé cette étape, c'est difficile entre les prières de penser à Allah souvent, subhanahu wa ta'ala, parce que tout nous attire vers ce monde. Et c'est difficile dans une société de la technique, dans une société de la vitesse, de réussir à prendre son temps. C'est difficile. Pourquoi est-ce qu'on ne l'admet pas? Pourquoi chaque fois qu'on parle de l'islam, on parle d'un islam que personne ne vit? Il faut parler des principes de l'islam, oui. Mais ensuite, dès que nous parlons d'islam, il faut parler de l'islam que l'on vit. Les adultes et les jeunes, les grands et les enfants, c'est difficile parce que notre cœur, c'est un djihad permanent. Et quand nous admettons cela, nous comprenons pourquoi la fraternité est importante. C'est quand j'admets que c'est difficile que je dis à mon frère, mais aide-moi, j'ai besoin de cette fraternité. Et c'est parce que je sais que c'est difficile pour vous que vous êtes tous là. Est-ce que vous seriez tous aussi nombreux ici si c'était facile? Vous n'auriez pas besoin du frère Tariq. Il dit, mais oui, on le vit l'islam. On n'a pas besoin de lui. Simplement, vous êtes ici parce que vous avez envie que vos cœurs soient apaisés par un discours qui vous rappelle l'essentiel et vous dise, mais oui, c'est ça la solution. C'est ça que nous devons travailler. Donc c'est difficile. Pour vous, les frères, comme pour les sœurs, c'est pas facile. Et toute personne qui vit en 1996 son islam de façon difficile, c'est un être normal. Il est normal. Il fait un djihad. Et vous faites tous ici un djihad. Et alors dès qu'on comprend que c'est difficile pour nous tous, on comprend que c'est très difficile de faire un foyer équilibré. Parce que dans la société moderne, aujourd'hui quand je vous parle, dans tous les pays occidentaux, le début de la catastrophe, le début de la rupture, il ne se passe pas au niveau économique, il ne se passe pas au niveau de la drogue, il ne se passe pas au niveau de la délinquance, il se passe au niveau de la famille. La plus grande épreuve du monde moderne, c'est l'équilibre de la famille. Parce que tout est fait pour attirer l'homme à l'extérieur. Pour tout est fait pour prendre les enfants et les déchirer dans leur cœur. Tout est fait pour entrer, pénétrer entre l'homme et la femme, pour qu'il y ait moins de communication, pour qu'il y ait moins de respect. Tout est fait pour casser la rupture, casser l'équilibre. Toutes les conditions sont là. Donc pour pouvoir admettre que l'on veut créer un couple équilibré, il faut admettre une chose. Je vous appelle, frères et sœurs, à un djihad de première importance. Non pas de sortir d'ici et de trouver tous ceux qui ne sont pas musulmans pour les insulter, ce n'est pas l'islam. Mais de créer dans vos demeures l'équilibre. C'est le djihad du musulman en 1996 où qu'il se trouve. Je suis en djihad, en travail et en lutte pour Dieu, pour réussir dans ma famille à respecter et à aimer ma femme au point que je réussisse à transmettre à mes enfants il amène le dépôt. C'est le djihad. L'ennemi est invisible, comme le diable est invisible, mais l'ennemi est concret et réel, comme le diable est concret et réel. Alors, en termes d'éléments fondateurs, il y a un principe en islam. Le principe en islam, à partir du moment où nous avons compris que notre communauté musulmane se fonde sur ce noyau, elle se fonde d'abord sur l'individu musulman, homme ou femme, qui a compris ses devoirs et qui veut les vivre. tout de suite après, le noyau fondamental, c'est la famille, parce que c'est l'espace de l'équilibre. Alors il faut qu'on dise des choses très claires. En 1996, il faut que nous fassions entendre au monde entier que par rapport à une modernité qui amènerait la famille à se rompre, l'islam dit, et nous disons en tant que musulmans, si la modernité amène à cela, nous voulons, nous, d'une modernité qui ne brise pas nos familles. Et nous allons dire et nous faire entendre, la famille, nous y tenons, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que pour tout être, le chemin de son paradis, ce sont ses parents. Et nous allons défendre cela, bec et ongle. Amenez-moi tous les moyens techniques du monde, toutes les télévisions, tous vos progrès, la famille d'abord, tout ça nous verrons après. Mais la famille, j'y tiens. Parce que quand j'entends, de mes oreilles j'entends ce verset qui dit « Waqadha, qadha » ça veut dire « il ordonne ». « Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayn ihsana » C'est Allah subhanahu wa ta'ala commande que vous n'adoriez que lui et qu'il y ait l'excellence dans les parents, je comprends du haut de sept cieux, ici dans ma petite terre, que c'est un commandement divin. La famille, c'est la famille. Et j'y tiens. Et nous y tenons. Et nous allons nous battre pour ça. C'est la lutte. C'est le djihad personnel de chacun dans sa famille. Qu'est-ce que c'est ce djihad? Ce djihad, c'est de dire une chose très claire également. C'est qu'il est dit en islam et que le prophète Hassan nous a donné la consigne. Le noyau familial, la personne autour de qui se crée le noyau familial et auprès de qui se trouve le paradis et à ses pieds se trouve le paradis, c'est la maman. C'est la mère. Et que nous demandons à toutes nos sœurs d'entendre, comme je veux que l'entendent tous les frères, le noyau de la famille, c'est la maman. Parce que cette maman, elle est irremplaçable. Parce que la maman, c'est la voie du paradis de chacun d'entre nous. Parce qu'il faut véritablement que nous entendions ce hadith où le prophète Hassan le dit, et vous l'avez tellement entendu. Mais j'aimerais que vous l'entendiez avec votre cœur. À qui dois-je le respect? À qui dois-je les bons égards? Ta mère, puis ta mère, puis ta mère, puis ton père. Ça veut dire quelque chose à nos cœurs. Ta mère, ta mère, ta mère, puis ton père. Donc, tous nos enseignements doivent porter sur cela. Et ensuite, que nous nous mettions d'accord sur la première priorité que j'ai mise en évidence, la priorité de la famille dans les liens. Cela veut dire qu'il faut que nous permettions à nos épouses d'être des mères, et il faut aussi que les mères apprennent et aident leur mari à être de bons pères. Alors il y a des petites choses qu'il ne faut jamais faire pour cela. Pour ceux qui ont des enfants, il vous est interdit, en tant que musulman et musulmane, ne vous est pas interdit au sens islamique, il vous est interdit au sens psychologique du terme, mais je crois qu'au sens islamique ça se comprend. Ne vous disputez pas devant vos enfants. Et que jamais l'un d'entre vous ne prenne ses enfants comme témoin de l'erreur de son épouse, et qu'aucune épouse ne prenne comme témoin ses enfants de l'erreur de son mari. Parce que s'il a fait une erreur en tant que mari, il reste le père de ses enfants, à qui ses enfants doivent le respect. Et si votre épouse a commis une erreur ou a fait quelque chose qui vous a fâché en tant que mari, elle reste la mère de vos enfants. Et qu'il faut faire très attention à ces petits détails. Ça, c'est un élément dans la dispute. Dans la dispute également, il faudrait bien qu'on commence à entendre une chose. La crise et la dispute dans les couples est normale, elle passe par là. C'est la façon de la vivre qui n'est pas normale chez nous. C'est que l'un crie et insulte sa femme, après deux mots il lui a déjà dit je ne sais combien de fois où tu t'en vas, ou retourne chez ta maman, et il y a des énervements. Et puis le pire, c'est que la femme qui pourrait entendre cela, elle, au lieu de faire ce qui est sage, c'est-à-dire d'essayer de calmer les choses, elle en rajoute. Alors c'est de l'énervement sur de l'énervement, et ça crée ce que vous connaissez, pour certains. Et de la même façon, les frères, par rapport à leurs époux, vivent dans... Mais on n'a pas compris les éléments essentiels de « ne vous mettez pas en colère ». Par trois fois, le prophète Aïssatouassam l'a dit. Donc ça veut dire qu'il faut vivre dans son quotidien. Quand vous sentez que votre mari se met en colère, et vous les maris, de vous mettre en colère, vous ne devriez vous mettre en colère que pour ce qui déplaît à Dieu, pas pour vos petits égoïsmes. Parce que ça se réforme, les petits égoïsmes. Mais se mettre en colère pour ce qui déplaît à Dieu, eh bien, essayez d'abord de maîtriser sa colère, et le prophète Aïssatouassam a dit, le plus fort d'entre vous, ce n'est pas celui qui terrasse son ennemi, c'est celui qui maîtrise sa colère. À la maison, maîtrisez sa colère. Mais s'il vous arrive d'être en colère, ce qui est demandé aux épouses, c'est justement de ne pas en rajouter et d'essayer de trouver le calme. Et si vous trouvez vos épouses en colère, et qu'il peut arriver que les choses de cette façon-là arrivent, eh bien, nourri par votre enseignement islamique, faut calmer les choses. Cherchez toujours la paix. Mais ça, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir dans son couple. C'est un esprit qui doit rayonner dans toute la société musulmane. Mais certains d'entre vous, la plus élémentaire des attitudes dans leur maison, ils ne l'ont pas. Ça crie, ça s'insulte, ça n'a pas de respect, on les traite n'importe comment, et on pense que on a entendu que les femmes devaient être soumises aux hommes, et alors on fait n'importe quoi. Elles doivent être soumises aux hommes quand l'homme est un modèle de l'islam, pas quand il fait n'importe quoi, parce qu'il nous est dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq, pas d'obéissance à une créature en désobéissance au créateur. Donc et si elles vous sont soumises dans votre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, vous comprenez que votre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit de les maltraiter. C'est ça la réalité. Elles vous sont soumises, mais vous, quand vous êtes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, vous comprenez que vous êtes à leur service et que vous ne pouvez pas les maltraiter. C'est ça la réalité d'un couple islamique. Et à partir de cette réalité-là, cela veut dire qu'il y a un grand travail que nous ayons à faire de compréhension, de dialogue au sein des couples. Et puis, avec cela, il y a aussi la façon dont on traite nos enfants et de façon dont la famille se constitue dans nos rapports. Avant de passer à cette réalité des enfants et au travail social, ce seront les deux points que je verrai avec vous. Dans la conclusion, j'aimerais dire aussi que quand on met comme sujet les rapports conjugaux, il faut admettre que dans notre relation de couple, il y a un domaine dont nous, en tant que musulmans, nous ne parlons pratiquement jamais, et qui est le rapport intime, affectif. Certes, il est dit que les anges maudissent la femme dont le mari se couche à côté d'elle et qu'il est insatisfait d'elle. Cela est dit, et vous avez raison, c'est un hadith sahih. Mais ce hadith-là, il a une conditionnalité. C'est-à-dire que la malédiction ici, elle se fait quand la femme, dans son attitude avec l'homme, désobéit à son mari au sens où lui a une attitude islamique, pas de n'importe quelle désobéissance. Et que certains d'entre nous, dans leur façon d'être dans l'intimité avec les femmes, supposent qu'elles n'ont aucune volonté, aucune envie, aucun désir et aucune sensibilité. On doit créer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, un espace de tendresse à la maison et on maltraite le corps et parfois l'intimité de ceux avec lesquels nous devons créer un espace de tendresse. J'aimerais vous demander comment vous voulez réussir ce miracle. Comment voulez-vous que la tendresse se crée quand on ne respecte pas les corps et quand on ne respecte pas les sensibilités? Le prophète, alayhi salam, il était affectueux. Il était tendre et il était caressant. Comment sommes-nous? Ça, c'est l'islam. Quand il pénètre nos cœurs, il illumine nos gestes. Vous entendez? L'islam, quand il pénètre nos cœurs, il illumine nos gestes. Évitez les brusqueries. Évitez, je ne sais pas moi, j'entends tellement de choses qui sont dites, mais qui sont mal dites, tellement de gestes qui sont mal faits. Ben ça, il faut l'éliminer. Rapprochez-vous de Dieu, Inch'Allah, vous vous rapprocherez de l'essentiel de votre couple. Et puis, ça doit également illuminer. Vous savez pourquoi, en fait, tout ce que je vous dis, pourquoi? Vous avez entendu ces paroles coraniques? Antum libasun lahun, wa hunna libasun lakum. Vous avez entendu? Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Je vais vous dire une chose. Si on vit vraiment dans cette vie de couple-là, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Vous êtes un vêtement pour elle » ? Parce que si vous arrivez vraiment à établir la tendresse dans votre couple, elles ont confiance en elles. Et quand elles ont confiance en elles, vous savez ce que c'est la protection ? La protection, c'est avoir confiance en Dieu et confiance en soi. Et parfois, certains d'entre vous poussent leur femme à avoir tellement peu confiance en elles qu'elles ne savent plus comment avoir confiance en Dieu. Et ça évoque des doutes. Et pour être un vrai manteau, un vrai vêtement, une vraie protection pour sa femme, pour que quand elle vive dans sa famille, elle se sente aimée, elle se sente respectée, elle se sente nourrie par l'islam, il faut que vous deveniez un vêtement pour elle. Et un vêtement, vous savez, ça protège et ça donne de la chaleur. N'oubliez pas ça. Le vêtement, c'est pas simplement ce qui ne montre pas. C'est ce qui protège du froid. Et qui protège de tout ce qui pourrait atteindre la personne. La chaleur humaine. L'islam, il a enseigné au monde la galanterie et la chaleur humaine. Et nous vivons un islam de rustre. Un islam qu'il ne faut pas confondre avec les habitudes du désert. L'islam a ennoblit les gestes, rendu les gens dignes dans leur noblesse avec leurs femmes. Et quand il est dit les femmes, entendez bien les sœurs, vous êtes un vêtement pour eux. Vous êtes un vêtement pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on vit dans la maison, la chaleur, quand on vit dans la tendresse, quand on sort en société, alors on est protégé parce que ça nous protège cette force. Certains vont être protégés par leurs principes, mais qu'est-ce qui nous protège le mieux de toutes ces illusions d'extérieur? Ce qui nous protège le mieux, c'est quand nous sommes bien à l'intérieur. Chacun d'entre vous l'a vécu. Il y a des jours, vous n'avez jamais vécu ça? Il y a des jours où vous sortez le matin, vous vous sentez fort, on pourrait vous faire quoi que ce soit, mais vous vous sentez tellement avec Allah subhanahu wa ta'ala, tellement bien à l'intérieur, vous êtes tellement nourri de lumière que tout pourrait arriver, vous êtes là. Et des fois, vous sortez, il y a tout qui n'est pas bon. On pourrait vous faire n'importe quoi, vous allez vous écrouler. Vous avez mal au cœur, mal à tête, il y a des tensions à l'intérieur, vous sentez que vous n'êtes pas bien. Vous n'avez jamais remarqué que souvent, quand ça ne va pas bien à la maison, quand vous sortez, ça va mal? C'est parce que le vêtement, il n'est pas bon, le vêtement, il est déchiré. Le vêtement, il ne vous permet pas de vous protéger. Mais comprenez qu'il faut que ce vêtement-là, il nous protège de tout. C'est ça le rapport que nous devons avoir. Et c'est ça qui fait l'équilibre. Avec ceci vient un autre élément qui ne traite pas directement de ce qui est J'aimerais dire encore une chose, avant d'arriver aux enfants, parce que c'était ça dont je voulais parler. Dans nos rapports avec l'extérieur, j'aimerais simplement vous dire une chose. Un jour, un être humain, élu par Allah subhanahu wa ta'ala, reçoit un message. Un message qui l'a perturbé. Vraiment, très profondément. Il ne savait pas à ce moment-là si l'être qui lui avait parlé était un ange ou un démon. Il ne savait pas s'il devenait fou. Il ne savait pas de quoi était constitué ce qu'on lui apportait. Et il a vécu l'expérience de tout homme. Il a vécu l'expérience de toute femme qui vit dans l'amour. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est retourné et il est allé demander la protection affective de qui ? La protection affective de qui ? De son épouse. Il lui a demandé « Protège-moi ». Elle l'a protégé. Elle l'a apaisé. Elle l'a apaisé en lui disant « Toi, ça ne peut pas être le démon parce que tu es bon avec tes proches. » Regardez ce qu'elle lui dit. Quand il vient à elle, avec un doute, elle le réconforte avec ses qualités. Quand vos femmes viennent à vous avec des doutes, réconforte-les avec les qualités. Voyez et mettez en évidence les qualités de vos femmes. Voyez et mettez en évidence les qualités de vos époux. Et qui est cet homme qui a été apaisé dans ce doute par ses qualités? Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Elle l'a apaisé. Tu peux pas, c'est pas possible. Que ce soit le diable, c'est l'ange, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est elle qui l'a tenue. Elle a été, à ce moment de grande tendresse, le moment de toute sa force. Vous entendez ? Elle a été de toute sa tendresse, l'expression de toute sa force. Et quand on est aimé, quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala et quand on est aimé, eh bien on a gagné. Ce monde-là, il ne nous atteindra pas. Mais quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne sait plus qui nous aime, on ne sait plus où on va aller. Et ça va être difficile. C'est une épreuve sur une épreuve. Tout ça, je vous le dis, parce que tout ce dont je suis en train de parler, il va bien falloir le transmettre à nos enfants. Et le prophète ﷺ a dit, celui qui ne tue pas sa fille, entendez, celui qui ne tue pas sa fille, celui qui ne l'insulte pas, et celui qui ne la traite pas de façon différente que son fils, celui-ci, ira au paradis. Subhanallah. Ça veut dire qu'en tant que papa ou en tant que maman, si je traite ma fille à l'égal de mon fils, il suffit de cela pour que j'entre au paradis. Ce n'est pas il suffit de cela. C'est un message pour vous dire c'est tellement important. C'est tellement important que vous voyez dans votre fille un être créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les quelques-uns d'entre nous qui donnent l'exemple pendant que leur femme travaille à la cuisine d'être devant la télévision avec leur journal, les quelques-uns d'entre nous qui donnent l'exemple en permettant à leur fils de rester assis devant la télévision, toutes les corvées de la vaisselle, parce qu'elle est une fille et que je la prépare à être une femme et qu'une femme c'est la cuisine et la vaisselle alors que l'homme c'est la télévision et le journal, celui qui a compris ça de l'islam n'a rien entendu de ce que je viens de dire. Puisque il faut pour que j'entre au paradis que je la traite comme lui. Il faut qu'à lui de la même façon je lui dis écoute bien mon fils. Parce que je t'aime en Dieu et que j'ai appris que le prophète, alayhi salam, aidait son épouse, travaillait à la maison, lève-toi. travaille. Écoute, ma fille, parce que je t'aime, parce que je te... et j'ai envie que tu portes, non pas que tu deviennes avocat, comme ton frère, j'ai pas envie que tu deviennes le meilleur des avocats. Ce que je veux pour toi, tu sais, c'est plus qu'être avocat, c'est plus qu'être médecin, c'est plus qu'être président de la République, c'est le paradis que je veux pour toi. Et bien parce que je t'aime, je vais te donner l'éducation à laquelle tu as droit, ma fille et mon fils. Et cette éducation, elle est fondée sur l'amour. Quand je vois des filles de 14, 15 ans ici à l'île Maurice qui me disent, dites à nos parents, quand vous leur parlez, je vous le dis, parce que c'est un dépôt qui a été fait, dites à nos parents qu'ils nous fassent confiance. Dites-leur que nous avons droit à l'amour. Dites-leur que nous avons besoin que quand nous leur disions une chose, ils nous croient. C'est vrai que vous les aimez. C'est vrai que les mamans aiment leurs filles. C'est vrai que vous aimez vos filles. C'est vrai que vous avez peur pour eux quand ils sortent dans cette société-là. Et c'est vrai que c'est compréhensible d'avoir peur. J'ai une fille qui a bientôt 10 ans, mais je commence déjà à avoir peur. Je me dis, mais comment je vais faire pour protéger son cœur de tous ces dérapages? Bien sûr que c'est parce qu'on a peur qu'on est exigeant. C'est même parfois parce qu'on a peur qu'on devient très dur. C'est vrai. Mais ils vous disent un message. Le vrai message d'aujourd'hui, ils nous le disent. On peut comprendre cette peur, mais ils nous disent, faites-nous confiance. Écoutez-nous, parlez-nous, restez avec nous. Et c'est bien cela que le prophète A.S.A. faisait. Il passait des moments à jouer. Il restait avec les enfants, il parlait avec ses épouses, et il parlait avec ses enfants, tous ceux qui étaient autour de lui, que ce soit son... Il parlait avec tout le monde. Nous parlons avec... Ça m'arrive tellement, je suis en train de vous parler d'une chose que je vis de la même façon que vous. Parlons à l'extérieur, et puis parfois nous négligeons de parler avec nos enfants, et ils nous le disent. J'aimerais que vous compreniez qu'en 1996, peut-être beaucoup plus qu'auparavant, le dialogue est une nécessité, les enfants ont besoin qu'on leur parle. Et il faut leur parler de tout. Ils vivent des choses que vous ne savez pas qu'ils vivent, mais il faut leur parler et les laisser parler de ce qu'ils vivent. Le plus grand cadeau qu'une fille peut faire à sa maman ou à son papa, le plus grand cadeau qu'un fils peut faire à sa maman et à son papa, quel est-il ? De lui dire ce qu'il ressent. Parce que ça veut dire qu'il lui fait confiance. Ça veut dire qu'ils pensent qu'en le lui disant, ils vont trouver une solution ensemble. Il faut les laisser nous parler. Il faut les laisser avoir ce contact-là. Mais pour avoir un tel contact avec mes enfants, si je ne leur montre pas que j'ai réussi ce contact avec leur maman ou avec leur papa, à qui vont-ils parler? Ils ne vont rien dire. Et ils vont subir l'islam. Parce que certains d'entre nous font subir l'islam. J'aimerais bien que vous entendiez la différence fondamentale qu'il y a entre offrir l'islam à ses enfants, leur enseigner l'islam et le leur faire subir. Vous avez vu la différence? La différence est que le prophète, alayhi salam, et que tous nos enseignements de tous les savants, c'est que nous devons enseigner l'islam et non pas le faire subir. Et la différence entre enseigner, c'est partir du cœur et former un être. Et que faire subir l'islam, c'est imposer à un être ce qui devrait être dans son cœur. Vous voyez qu'on commence par le contraire de ce qu'il faut faire. Parler à un cœur pour former un être, et non pas contraindre un être pour toucher son cœur. Parce que par la contrainte, on ne touche pas son cœur. Et que nous devons transmettre ceci à nos enfants, que nous devons le faire au quotidien, vraiment. Et ça demande aux mères de savoir être mères et complices de leurs enfants. Et ça demande à vous de savoir être père et être complice de vos épouses et complice de vos enfants. Vient le dernier point que je vais traiter très rapidement, puisque la fin de cette rencontre approche. Et le dernier point, c'est que tout ceci, c'est l'essentiel de notre rencontre. Je vous ai cité des versets du Coran, je vous ai cité l'exemple du prophète, alayhi salam, et il y en a un autre également à partir de la vie de couple, qui doit être important, ça peut être l'engagement. L'essentiel dans la famille peut aussi, et il faut trouver un équilibre dans votre engagement à l'extérieur. Cela veut dire que pour vous, en tant que musulman, il n'est pas dit qu'il est interdit à la femme de vivre une vie sociale. Il n'est absolument pas dit cela. Ce qui est dit, c'est de vivre une vie sociale en perdant l'équilibre de la famille, c'est pas bon. Donc l'équilibre de la famille est prioritaire. Ensuite, ce qui est dit, c'est, une fois qu'on a trouvé l'équilibre de la famille, de trouver le moyen de s'engager. Et moi, c'est mon dernier message aux frères de l'île Maurice et aux sœurs de l'île Maurice. Préservez vos familles, mais engagez-vous aussi sur le plan social. Il est un fort besoin aujourd'hui de transformer cette communauté ici à l'île Maurice et de s'engager. Mais pour s'engager, il faut que vous compreniez que ici nous sommes, me dit-on, 1400, au plus, ou 1600, que sais-je. Mais combien ne sont pas là? Combien ne sont pas ici? Et si eux, ceux qui ne sont pas là, et elles, celles qui ne sont pas là, vivent dans des familles qui ne sont pas des familles, vivent dans des structures qui ne sont pas des structures familiales, où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas de communication. Ils vont vivre dans la société perdue, il va bien falloir que l'on s'engage. Et qu'à partir de la famille, il faut que vous rayonniez sur le plan social, que vous fassiez parvenir cette lumière et que vous permettiez, si vous avez réussi à trouver l'équilibre familial, mais pour pouvoir le trouver, il faut vous engager, vous les frères, à respecter vos épouses et à leur parler de la meilleure des façons, bien je crois que dans cette perspective-là, ce qu'il faut que vous fassiez vraiment, c'est d'essayer de trouver les moyens que les sœurs les plus compétentes puissent transmettre un enseignement que parfois des sœurs qui ont permis ou qui ont pu trouver l'équilibre dans la famille remplacent les mères qui ont manqué à d'autres filles, remplacent les mères en termes de transmission de l'information et de l'enseignement, de la formation. Nous avons besoin de sœurs qui puissent trouver des sœurs. Et il y a une chose aussi qu'il faut que nous comprenions. C'est que l'isolement dans la maison, dans une société comme la nôtre, il n'est pas forcément bon. Il faut donner à la possibilité à des sœurs de se rencontrer comme ce soir, que ce soit dans des groupes de travail, n'importe où, mais il faut créer quelque chose qui permette effectivement à des sœurs de trouver la force. Parce que quand on fait un travail à l'extérieur et qu'on rentre à l'intérieur dans un équilibre familial, ça augmente notre foi. Mais j'aimerais que vous vous rendiez compte que certaines de nos sœurs, des jeunes sœurs à l'extérieur, n'ont pas trouvé de maman qui leur parle, n'ont pas trouvé cela. Et qu'il y a des sœurs ici qui ont tous les moyens de pouvoir compléter, alimenter, donner ce que les mamans n'ont pas pu donner. Il faut le faire. Que les frères ici peuvent trouver dans la rue des frères à l'extérieur qui n'ont pas eu de papa, qui n'ont pas eu un papa qui dise à son fils, c'est parce que je t'aime que je ne veux pas que tu fasses ça. C'est parce que je t'aime que j'ai envie que tu pries. C'est parce que je t'aime que je te réveille à 4h du matin pour que tu pries avec moi. C'est parce que je t'aime, je veux pour toi le paradis. Il y en a qui n'ont jamais entendu ça dans la maison. Ce qu'ils ont vu à la maison, c'est un papa qui boit. Ce qu'ils ont vu à la maison, c'est un papa qui frappe sa femme. Ce qu'ils ont vu à la maison, c'est pas papa du tout. Alors si ces enfants-là qui sont dans les rues ne trouvent pas des papas comme vous, qui êtes ici pour entendre une conférence et qui travaillent socialement pour les remplacer, pour former les jeunes, pour leur dire l'islam ce n'est pas un tissu d'interdit. L'islam c'est un message d'amour, de paix à ton cœur pour que tu puisses vivre dignement dans cette société. Le problème c'est que nous présentons toujours l'islam avec une somme d'interdits, ce n'est pas ça. Et il faut sortir dans cette... Là, vous êtes dans un village. On m'a dit que c'était un village. Beaucoup sont venus de partout. Eh bien, dans cette réalité qui est la vôtre ici, dans ce quartier, dans ce... Mais qu'il se crée des choses pour ces jeunes qui n'entendront, qui n'ont pas eu de papa, ou qui ont un papa qui n'est pas un papa parce que lui-même n'a pas eu les circonstances. Et ça, faut le faire. Et à partir de ma bonne compréhension de ce que c'est que le noyau familial... Nous comprenons ce que c'est que le véritable engagement social devant Dieu. Qui a compris l'importance de la famille, sait la nécessité de la société. Et qui sait la nécessité d'une bonne société, sait, et vous le savez tous, il n'y en a pas un d'entre vous qui ne le sait pas, combien il faut s'engager pour réformer ce qui est à l'extérieur. Fondamentalement, du fond de votre cœur, vous engagez. Voilà. Avant que nous passions aux questions, que mon dernier message pour les frères et les sœurs lors de cette dernière rencontre, parce que c'est la dernière, parce que demain nous rentrons, Inch'Allah, c'est de vous dire que je repars avec énormément de force. Et je parlerai de ce que j'ai vécu dans toute l'Europe, partout où je pourrai aller, partout où on me laissera aller, parce qu'il y a des pays maintenant qui ne veulent plus ce message. Bien partout où j'irai, je transmettrai ce message-là d'une forte mobilisation, d'une volonté farouche d'essayer de faire quelque chose. Et je me suis mis au service des frères qui m'ont invité pour les années à venir. Et je me suis mis au service de cette communauté mauricienne, vraiment à votre service. Parce que c'est aussi la chose que j'ai appris. De tout ce que j'ai appris une chose. Celui qui sait est au service de ceux qui veulent savoir. Est au service de ceux qui veulent savoir, qui ont la volonté. Et si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé depuis 2 semaines ici à l'île Maurice, ou depuis 2 semaines, soir après soir, nous sommes tous, tout le temps, nombreux à vouloir essayer de comprendre notre religion ensemble et de répondre et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous comprenez cela, le message que je peux vous dire, c'est que quand je pense au monde musulman, quand je pense à certains de mes frères et quand je pense à certaines de mes sœurs qui vivent sous tellement de contraintes, de tortures et de peines, alors je vous mets en face de vos responsabilités et je vous dis malheur à vous si avec tout cela vous ne savez pas être digne du message que vous portez. Il est lourd. Mais vous devez être digne. Hommes et femmes, frères et sœurs, que tout de suite et le plus vite possible, chacun se pose la question de ce qu'il est en train de faire de sa vie. Parce que vous connaissez le verset. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Le jour où aucune personne, aucun être, ne pourra rien pour un autre être. وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذٍ لِلَّهِ. Et l'affaire, ce jour-là, sera entre les mains de Dieu. Et ce jour-là, vous ne pourrez pas trouver d'excuses. Vous savez pourquoi vous ne pourrez pas trouver d'excuses, frère de Maurice? Savez-vous pourquoi vous ne pourrez pas trouver d'excuses, frère et sœur de Maurice? Savez-vous pourquoi il vous sera impossible de trouver une excuse? Parce que vous n'avez aucune excuse. جزاكم الله كل خير.